Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Katerina Zekopoulos, est-ce que je l'ai bien dit d'abord ?
Parfaitement, merci.
Bon, on se doute de quelle est l'origine de votre nom, mais je vous laisse nous raconter un petit peu votre histoire tout de même.
Oui, alors l'origine du nom, c'est grec, effectivement. Dans Tintin, il y a Rastapopoulos, donc c'est assez facile à identifier. Donc mon père est grec et ma mère française d'origine espagnole.
D'accord, bon, j'imagine rien parce que je n'ai pas le droit d'imaginer. Vous êtes née où ?
Je suis née ici, à Paris, parisienne pur jus.
Je vous ai repéré sur LinkedIn pour qu'on dise les choses très clairement. Nous ne nous connaissons pas, c'est notre première discussion. Il y a quelque chose qui m'a attirée, évidemment, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Voyez-vous à quoi je fais allusion ?
Là, comme ça, je dirais que c'est peut-être le fait qu'une personne jeune ou perçue comme jeune s'intéresse au vieux ou à ce sujet de la vieillesse, peut-être.
Pourquoi perçue comme jeune ?
Parce que je me considère plus vraiment comme dans la catégorie des jeunes. Je pense que je suis dans cet entre-deux maintenant, ni jeune ni vieille.
Quel âge avez-vous, Katerina ?
J'ai 32 ans.
Bien, alors, de mon point de vue, vous êtes encore toute jeune. Donc, vous intéressez aux vieux. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
Absolument.
Alors, qu'est-ce qui vous a pris ?
Qu'est-ce qui m'a pris ? Oui, c'est une bonne question. Ce qui m'a pris, c'est de voir autour de moi, alors d'abord dans ma famille proche surtout, des femmes qui rencontraient des difficultés dans le fait de vieillir, qui parfois s'en plaignaient ou qui se dévalorisaient aussi en disant « voilà, je suis vieille, je suis moche », en particulier ma grand-mère maternelle que je voyais beaucoup.
Qui avait quel âge au moment où elle formulait ce type de remarques ?
Alors apparemment, ça a commencé assez tôt. Ça, c'est ma mère qui m'en a informée, même je crois dès 40 ans, peut-être même avant. Mais moi, du coup, le souvenir que j'en ai, c'est plutôt autour de à partir de 80 ans, là où elle était vraiment, on peut dire, entrée dans la vieillesse, officiellement parlant en tout cas.
Et qu'est-ce qu'elle disait ?
Elle disait voilà, je suis vieille, je suis moche, je suis inutile, voilà, être dans ce registre un petit peu de la plainte et de la dévalorisation, voilà. D'accord. Et donc ça a commencé comme ça, et puis après je me suis renseignée, j'ai essayé d'élargir un peu le périmètre, et en 2021, donc l'année dernière, est publié un rapport mondial par l'ONU sur ce que je découvre comme étant l'âgisme, et je découvre plus spécifiquement ce sujet de l'âgisme. Mais c'est vrai qui n'est qu'une partie de la problématique plus large qui est celle de la transition démographique et du vieillissement.
Alors, quel est votre parcours ? Qu'on vous situe un petit peu et qu'on comprenne comment vous êtes arrivé finalement à... Alors, à la fois, il y a un contexte familial, vous l'avez évoqué, mais j'imagine qu'il y a d'autres éléments qui ont fait qu'à un moment donné, vous avez eu envie de vous poser sur cette question et d'ailleurs, vous allez nous dire de quelle façon. Alors, votre parcours peut-être d'étudiante ou professionnelle, je ne sais pas où vous en êtes.
Alors, le parcours d'étudiante, j'avais un peu le côté bon élève. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une classe préparatoire. Et puis, j'ai fait un parcours en lettres. Et assez rapidement, j'ai voulu bifurquer parce que je sentais que la voie était toute tracée pour aller vers l'enseignement. Et ma mère étant enseignante, par esprit de contradiction, je me suis dit, non, je ne serai donc pas enseignante. Je me suis tournée vers une école de commerce. Donc, ça m'a ouvert d'autres perspectives. Notamment, ça m'a donné la possibilité de bifurquer vers la communication. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans en communication, dans différentes structures, différents types de missions.
Quel type ? Racontez-nous quand même un petit peu, donnez-nous des éléments qu'on vous imagine dans ces contextes professionnels.
Ok. Alors, j'ai travaillé pour un grand groupe sur des enjeux de communication responsable. Voilà, la défense, ça a été un peu le début comme ça. Et puis, assez vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas trop fait pour moi. Donc j'ai évolué vers d'autres types de missions et petit à petit en fait je me suis rapprochée vers, j'ai fait aussi des missions en associatif, j'ai fait un service civique aussi, enfin bref j'ai un peu fait tous les statuts, tout type de structure, grande, petite, association, grand groupe, etc. Et puis en 2018 j'ai évolué vers la gestion de projet plutôt associatif dans le domaine de l'ESS, donc économie sociale et solidaire, et plus spécifiquement, alors je me suis rapprochée du vieillissement. Et donc là aussi, il y a eu la dimension professionnelle qui est venue aussi s'ajouter à la dimension personnelle.
Donc on est à la croisée des chemins à un moment donné entre une structure, un milieu dans lequel vous vous sentez plutôt bien, que vous avez découvert finalement au bout d'un petit périple de 5 années, et puis ce sujet du vieillissement. Alors aujourd'hui, c'est quoi le point de jonction entre les deux, s'il y en a un d'ailleurs, je ne sais pas.
Alors, le point de jonction, c'est que là, aujourd'hui, j'ai une activité qui est... J'ai deux activités principalement. Une activité de création de contenu via notamment un blog qui s'appelle Coup de Vieille. Donc, j'ai un blog et j'anime un compte Instagram autour de l'âgisme principalement. Donc, on pourra revenir sur ce
bien
que
sûr,
c'est.
Bien sûr.
Et donc, j'ai cette activité, ce volet-là. De temps en temps, des piges ponctuellement, en particulier pour un média qui s'appelle Vive et qui cherche à, du coup, accompagner les femmes dans leur... parcours de vie et dans leur transition, dans les tournants de vie. Donc ça, c'est le volet création de contenu, écriture d'articles, etc., sur ces sujets. Et puis, il y a un autre volet qui est plutôt du conseil, sensibilisation et formation autour de l'âgisme et des enjeux de diversité au sens large, à travers deux structures. Une première qui s'appelle Anemo. Donc c'est de la formation sur les enjeux de diversité et inclusion, essentiellement, puisque l'âge est une des composantes de la diversité, même si on l'oublie parfois. L'autre structure, c'est une association que je viens de créer, puisque dans le prolongement du blog, je me suis bien rendu compte au bout d'un moment que ça avait ses limites quelque part, l'exercice de prendre la parole, écrire, etc. Et donc j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là qu'est né aussi un projet associatif pour porter des actions que j'espère de sensibilisation à l'âgisme.
Alors j'ai plein de questions à vous poser. La première, elle va être assez brutale. Vous en vivez tout ça ?
C'est ouais. Alors effectivement, là, c'est mon défi pour, je pense, cette année et pour les années à venir, voir effectivement comment je mets en place ce modèle économique. Le statut associatif, normalement, permet d'aller chercher de la subvention, donne quand même pas mal de liberté, permet aussi de proposer des prestations. Donc j'espère réussir à générer suffisamment de revenus autour de l'association. Les missions de conseil... ça fonctionne, mais il faut en avoir suffisamment effectivement aussi pour en vivre, payer les factures. Et le contenu, aujourd'hui, moi j'ai fait le choix, en tout cas sur le blog, de ne pas le monétiser. Donc effectivement, les piges sont payantes, mais pour ce qui est de mon blog, c'est une activité, disons, non lucrative. Donc il faut la financer effectivement par cette activité qui doit passer par l'association. Et c'est vraiment toute la difficulté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne vis pas de ça, de ces activités-là. Voilà, je ne vis pas de ces activités-là, j'en vis en partie. Et donc l'idée, ça va être dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'essayer d'en vivre effectivement.
Alors ouvrons les dossiers un par un. Le blog, qu'est-ce qu'on trouve dans votre blog ?
Alors ce qu'on trouve sur Coup de Vieille, on trouve, j'espère, pas mal d'inspiration. On trouve des coups de gueule, des coups de cœur aussi. Donc des articles en fait qui vont parler d'initiatives qui cherchent à promouvoir une autre image du vieillissement, en particulier quand elle se conjugue au féminin. C'est aussi ça que je cherche à faire. Et donc, par exemple, là récemment, il y a aussi des articles invités, donc des contributrices extérieures qui peuvent intervenir. Là récemment, il y a eu par exemple un article sur la beauté cachée des vieilles. Donc il s'agissait de mettre en valeur des initiatives de photographes qui, par leurs photos, essayent de montrer la beauté des vieilles.
Alors les vieilles, elles ont quel âge ?
Alors elles ont, en fait, j'ai pas de limite d'âge.
Alors ça commence à quel âge ?
Mais ça commence, il n'y a pas, non, vraiment...
Vous avez du mal à le dire, Katerina. Allez, lâchez-vous.
Un âge ?
Quand vous vous projetez dans ce blog, dans cette association, dans les articles que vous êtes peut-être amené de temps en temps à écrire, c'est quel âge ? Parce que, enfin, je veux dire, entre 50 et 100 ans, il y a quand même juste un grand écart. Alors est-ce que vous, ça commence un petit peu avant ? Est-ce que ça commence dès 50 et...
À partir de 40 pour ratisser très très large.
D'accord.
Voilà, la plus jeune, j'ai aussi des portraits sur le blog, donc j'essaye de montrer des femmes qui vieillissent, pour aussi montrer qu'il y a une diversité de vécu et qu'il n'y a pas qu'une manière de vieillir, soit très triste, soit successful, voilà la belle manière de vieillir, donc il y a tout un entre-deux. Et donc la plus jeune de mémoire, elle a 45 ans, ou même peut-être un peu moins, donc ça démarre autour de... Oui, de 40, 45 ans.
Et alors ces femmes, elles disent quoi? Vous parlez de coup de gueule, qu'est-ce qu'elles disent?
Elles disent, elles ont des regards assez variés, donc ça c'est assez chouette. Il y en a une d'elles, Anne Zavant, qui est aussi blogueuse, qui a par exemple écrit un article où elle pousse un peu en effet un coup de gueule en disant voilà mes 8 bonnes raisons de détester les seniors, et donc elle liste point par point des stéréotypes qu'on entend souvent. Les seniors sont égoïstes, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont forcément malades, etc. Et donc là, voilà, c'est vraiment cette idée de déconstruire un certain nombre de stéréotypes autour du vieillissement. Ludivine, qui a écrit l'article sur ces femmes photographes, elle raconte une petite anecdote autour de sa fille, et en fait elle partage aussi le fait que voilà, elle aussi petit à petit vieillit, et donc elle doit assumer les premiers stigmates de l'âge, les cheveux blancs, voilà, et donc elle raconte en fait tout simplement comment ces photographes l'inspirent et font écho à son vécu.
Les plus âgées qui prennent la parole dans ce blog, elles ont quel âge?
Alors, pour le moment, la plus âgée que j'ai interviewée, je pense qu'elle a 60, elle n'est pas très âgée. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore de profil de femme très âgée. J'aimerais bien enrichir le blog avec des témoignages de femmes vraiment vieilles, si je peux dire, disons 80 et plus.
Oui, parce que finalement, si on est déjà vieille à 40 ans, j'ai presque envie de dire, avec une espérance de vie qui a un petit peu stagné ces dernières années, néanmoins qui est quand même élevé, qui approche les 80 ans. On sait qu'il y aura de plus en plus de centenaires également. Je dirais que la distance est assez large et elle rassemble une grande partie de la population française, sachant qu'en gros, elle est divisée en deux, cette population, avant et après 50 ans, dans les grandes masses.
Alors, c'est justement ce qu'il s'agit de montrer, parce qu'effectivement, je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je dois montrer des vraies vieilles ou des vieilles qui ne le sont pas encore? Et en fait, c'est ça que je cherche à faire aussi, c'est à montrer en fait toute cette variété de profils, puisqu'en fait, on a tendance à voir la vieillesse comme quelque chose d'assez figé, là où en fait, il y a de tout en fait. Il y a des femmes de 40 ans, il y a des femmes de 45 ans qui ne se considèrent pas du tout comme vieilles. Valérie, celle que j'ai interviewée, qui a la quarantaine, d'ailleurs, je dis qu'elle a la quarantaine, mais il me semble qu'elle a 50. Vous voyez, je la rajeunis. Mais en tout cas, Valérie, qui est la plus jeune interviewée, elle ne se considère pas du tout comme vieille, évidemment.
Mais est-ce qu'elle l'est, selon vous ?
Si elle ne se considère pas comme vieille. Après, aux yeux de la société, est-ce qu'elle est vieille ? Peut-être qu'aux yeux d'un plus jeune, elle sera vieille.
Oui, c'est un peu le principe de base.
Voilà, effectivement. Après, je ne suis pas, je suis pas dans une optique qui consisterait à tout relativiser, à dire que la vieillesse n'existe pas et que la jeunesse n'existe pas, pas du tout. Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a vraiment des étapes dans la vie. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Après, le reste, ça, c'est du ressort de la spiritualité ou de la croyance, et je le respecte. Mais voilà, effectivement, en tout cas, Valérie est-elle vieille ? Selon elle, non. Est-ce qu'aux yeux de la société, elle l'est ? Normalement, elle ne rentre pas encore vraiment dans les stats. Maintenant, elle a passé, par exemple, l'étape de la ménopause, ça aura tendance à être considéré comme un stigmate de la vieillesse. Donc tout ça est très compliqué. Et en fait, j'essaye justement de complexifier un peu pour montrer que voilà, ce n'est pas noir ou blanc.
De simplifier, vous voulez dire ? De complexifier.
Non, j'essaye de complexifier.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire de montrer, en fait, souvent l'image qui nous est renvoyée, ça va être une caricature. On a deux caricatures qui se font face, bien souvent. C'est le vieux-vieux.
Vous voulez dire que vous apportez des nuances à quelque chose qui pourrait être très dichotomique ou... On est d'accord, ouais. D'accord, je comprends mieux. Alors, les femmes qui s'expriment dans le blog, pourquoi elles viennent là ? Elles viennent là parce qu'à un moment donné, elles ont une question autour du vieillissement. C'est ça qui fait que vous les rassemblez sur votre blog ? C'est l'élément ?
Qu'est-ce qui fait qu'elles viennent là ? Pour celles que j'interviewe, elles viennent parce que je le leur demande et parce qu'elles ont parfois la gentillesse de bien vouloir se prêter au jeu et parce que parfois, ça rejoint aussi leurs engagements. Donc là, j'ai interviewé récemment Odile Plan, qui est présidente d'une association. Claire qui est créatrice d'un podcast PLAF sur les discriminations dans l'emploi. Donc voilà, là ça rejoint vraiment des engagements et donc elles s'y retrouvent en fait, ça leur permet aussi de porter un message et de se montrer, et c'est important. Et puis voilà, les autres aussi, celles qui interviennent plus pour porter elles-mêmes leur propre message à travers un article. C'est des motivations personnelles. Je pense qu'à un moment donné, elles se sentent interpellées par le sujet. Elles sentent que ça les concerne. Elles ont envie de dire quelque chose et de porter une parole un peu libre, voilà, comme peut le permettre le blog.
Vous l'avez démarré depuis combien de temps ? 2021, c'est ce que vous m'avez dit. Ça fait donc quoi, une petite année ?
Une bonne année.
Une bonne année. Alors, qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui ? Qu'est-ce que seraient les éléments d'enseignement principaux ? Qu'est-ce que vous avez appris au travers de ce blog ?
Alors, beaucoup de choses. J'ai appris déjà que j'adore écouter les gens parler d'eux. J'ai appris qu'il y a 1000 manières de vivre son vieillissement, qu'on peut se reconnaître vieux, on peut ne pas se reconnaître vieux, et que c'est tout à fait respectable. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort des interviews, puisque voilà, chacune a vraiment sa manière de vivre les choses. Il y a certaines qui veulent assumer leurs cheveux blancs, d'autres non, d'autres qui rejettent tout à fait la vieillesse, et je le respecte aussi. D'autres qui l'embrassent. Voilà, donc vraiment, j'en retire ça. Et puis après, y a vraiment l'aventure, c'est-à-dire que c'est génial de faire un blog, mais voilà, encore faut-il en vivre. Et donc là, c'est ma prochaine étape.
Alors, passons à l'association, ça c'est notre deuxième dossier. Donc, à quoi elle sert cette association ? Où en êtes-vous ? Racontez-nous tout ça.
Alors, l'association, elle est toute naissante. Elle est née officiellement le 8 mars et j'en suis ravie. La publication au journal officiel est tombée le 8 mars. J'ai pas encore de site, donc c'est vraiment en démarrage. Mais l'objet social est très large. Il s'agit de promouvoir une société qui permette à tout le monde d'avoir sa place, quel que soit son âge, avec un focus qui est plutôt mis sur la deuxième partie de la vie, disons. Voilà, plutôt la période qui commence à partir de 50 ans. Et donc, il va s'agir dans un premier temps, en tout cas cette année, de porter des actions de sensibilisation à l'âgisme, notamment à destination des professionnels. En tout cas, c'est ce que j'aimerais faire. Je pense surtout aux professionnels du médico-social qui sont au contact, en particulier de personnes âgées en établissement ou à domicile.
Comment vous allez vous positionner et qu'est-ce que vous pensez pouvoir leur apporter ?
Alors, j'espère pouvoir leur apporter peut-être une brique à laquelle ils ont pas, enfin, qui n'est pas forcément intégrée aujourd'hui dans la formation, ou qui est cette brique agisme, quoi. Donc, c'est vraiment leur apporter des éléments pour qu'ils puissent intégrer cette dimension de l'agisme dans leur accompagnement.
Et comment vous pensez leur apporter ? Par quels moyens ?
Alors, là, dans un premier temps, je suis partie sur un projet de webinar. Donc, il s'agira vraiment d'une première étape de sensibilisation, pousser à la réflexion, inviter à s'interroger. Vraiment, c'est la première étape. Et puis après, peut-être demain, aller plus loin avec de la formation, du conseil, etc.
D'accord.
Mais voilà, il s'agit vraiment de ça. C'est voilà, de favoriser en fait l'appropriation de ces enjeux qui ne sont pas faciles à prendre en compte, puisque quand on accompagne une personne âgée, disons, pour une aide-soignante, une infirmière, une auxiliaire de vie, son cœur de métier, c'est quand même d'accompagner la personne dans des actes très quotidiens qui vont de la toilette au coucher, prise des repas, etc. Et donc, que fait-on de l'agisme ? Je vais essayer d'apporter ça.
Qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette crise des EHPAD, on va l'appeler comme ça, pour faire simple ? Quel est votre point de vue sur le sujet ?
J'ai eu la chance d'écrire un article dessus pour Vive et c'est triste, évidemment, ça me remplit de tristesse puisque c'est des problèmes qu'on ne découvre pas, qui sont connus depuis longtemps, même depuis très longtemps. Il y a beaucoup de rapports, d'enquêtes, d'études, de livres aussi qui ont été déjà publiés, donc évidemment c'est toujours triste quand on voit que les mêmes problèmes se répètent, mais j'espère que ça peut aussi faciliter le passage à l'action. Donc, si ça peut faciliter le passage à l'action et une évolution, des évolutions, ça peut que aboutir sur du positif. C'est ce que j'espère, en tout cas.
Alors, vous avez parlé des personnes qui travaillent auprès de personnes âgées, notamment, et du plus que vous pourriez leur apporter à certains moments, d'une façon ou d'une autre, dans les années à venir, tel que vous le projetez. Est-ce que vous ne pensez pas que certaines personnes, d'une certaine façon, n'ont pas été très... très positivement récompensées justement de l'action qu'elles ont au quotidien, à cause de cette crise? Est-ce qu'on n'a pas jeté un peu le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'on ne fait pas des amalgames? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est sûr que... Bon, on parle beaucoup d'EHPAD bashing, hein, donc effectivement, les EHPAD qui sont sans arrêt critiqués. Oui, effectivement, c'est des métiers quand même difficiles, mal rémunérés bien souvent, pas très reconnus. L'âgisme aussi, ça va avec ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille auprès de personnes âgées, on n'a pas forcément non plus une reconnaissance à la hauteur de la tâche et du défi, là où peut-être quand on travaille avec d'autres types de publics, on a une plus grande reconnaissance. Donc oui, effectivement, c'est des professions qui méritent d'être valorisées. On est en train de le faire, je crois. Il y a eu aussi une revalorisation salariale, donc c'est en train d'évoluer. Mais effectivement, on tape beaucoup sur un secteur et ça nous empêche parfois, encore une fois, de voir la nuance, le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font bien leur travail, le fait qu'il y a des personnes absolument formidables. Et je suis aussi... je peux en témoigner puisque ma grand-mère est concernée. Et donc, on a des femmes très, très majoritairement qui l'accompagnent au quotidien et sans lesquelles ce maintien à domicile serait impossible. Et elle travaille très, très dur. Donc, effectivement, c'est important de le dire. Et pour autant, de reconnaître aussi les problèmes systémiques qu'on observe, qu'on connaît, les problèmes de maltraitance institutionnelle, ce que le Comité consultatif national d'éthique a appelé la ghettoisation des personnes âgées, qui est quand même un vrai sujet de société. Donc voilà, mais c'est toujours difficile d'avoir cette nuance et de tenir un discours de complexité sur ces sujets-là, quoi.
Le mot agisme, vous l'avez entendu quand pour la première fois et par qui?
Alors, je ne saurais pas dire exactement. Je ne saurais pas dire exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce qui a été le déclic, c'est le fait que les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé publient un rapport sur le sujet. Là, je me suis dit, ah oui, c'est pas petit, c'est gros. C'est un gros sujet, c'est un gros problème avec des chiffres, des éléments chiffrés sur l'impact, etc. Donc, c'est vraiment là où j'ai pris en fait la mesure du sujet, même si effectivement, il y a des chercheurs, notamment, qui s'intéressent au sujet depuis bien plus longtemps que moi et qui documentent sur ce sujet largement.
Alors, est-ce que vous connaissez des gens de votre génération, donc moi que je qualifierais de jeunes, mais bon, je le dis avec beaucoup de précaution, qui s'intéressent à ce sujet?
Oui, absolument.
Alors, allez-y, citez-moi quelques-uns. Et est-ce que vous avez des rapports avec ces personnes? Est-ce que vous discutez entre vous? Comment vous avancez?
Alors, plusieurs personnes. Clara Chauchard, qui anime un compte Instagram qui s'appelle Élixir de vieillesse. Elle a créé une structure d'aide aux aidants après s'être formée sur le sujet. Et Clara, on a la même passion, donc on échange régulièrement, on est en train de réfléchir justement à des collaborations possibles, sachant qu'avec toujours ce challenge de réussir à combiner des activités qui doivent quand même nous permettre de vivre et en même temps notre engagement qui est réel aussi. Donc je pense à elle, bien sûr. On a lancé récemment là, une petite enquête auprès d'un petit échantillon de 20 personnes sur les représentations de la vieillesse et la manière dont chacun se projette dans la vieillesse. On a appris plein de choses et on a envie d'aller plus loin avec ce projet-là. Clara, je pense à Josiane Asman qui a écrit ce livre qui s'appelle Les fleurs de l'âge, où elle donc tend le micro à des femmes de...
Alors Josiane, parce que son prénom ne m'indique pas qu'elle soit spécialement jeune. Quel âge a Josiane?
Josiane, elle a la trentaine.
D'accord, donc c'est une jeune.
Absolument. Ouais, d'ailleurs, elle le dit, je crois, dans son livre.
D'accord, ouais. Ok.
Josiane, donc Les fleurs de l'âge, où elle tend la parole, justement, elle tend le micro à des femmes qui se réinventent au fil des années de tous âges. Et je pense aussi à Mathilde Parquet, si j'écorche pas son nom, faut-il sur Instagram aussi. Pareil, on a la trentaine.
Des filles.
Ah oui.
Alors, je vais vous le dire, il y a des garçons, Katerina, et je vous donnerai quelques noms. Je pense que ce serait bien que vous rapprochiez d'eux, parce qu'en plus, ce sont des personnes qui sont en institution, qui peuvent vraiment, je pense, compléter une certaine vision que vous pouvez avoir. Me permet de vous dire ça parce que je suis un petit peu spécialiste de la question aussi. Donc, je pense que pour vous, ça peut être intéressant d'élargir, je dirais, votre cercle avec des gens qui sont sur le terrain, comme on vient de le dire, auprès des personnes un peu plus âgées que les autres, puisque celles-là, elles sont plutôt en EHPAD ou en résidence-service notamment. Alors sinon, donc le mot agisme, vous l'avez entendu, je reviens sur ma question, c'était quand la première fois?
Je pense que c'est 2020, mais je ne saurais pas dire comment je suis tombée dessus, etc. Je ne saurais pas dire.
Et là, ça a quand même fait tilt. Pour vous, ce mot, ça a permis de mettre un petit chapeau, je dirais, sur des éléments qui vous semblaient nécessaires de mettre en cohésion ou en cohérence?
Oui, en fait, oui, c'est ça. C'est quand il y a un mot qui comme ça, voilà, synthétise tout ce qu'on a pu observer par ailleurs. Je me suis dit, ah bah tiens, en fait, quand ma grand-mère se dévalorise, c'est pas qu'elle se dévalorise, bien sûr, elle se dévalorise pour des raisons personnelles, familiales, pour plein de raisons qui lui appartiennent, mais c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle agisme. Et d'ailleurs, cet agisme, il se décline à la première personne avec de l'auto-agisme. Et alors là, c'est un peu eureka. Ah bah voilà, en fait, on a nommé le problème, et à partir du moment où on a nommé le problème, on est en capacité normalement d'avancer vers la résolution.
On a déjà fait un pas, ça c'est certain. Je voudrais revenir sur les jeunes femmes, je le fais exprès, je souligne, qui ont 40 ans et qui sentent la nécessité de prendre la parole. On va le dire comme ça, hein, puisque c'est un petit peu le résumé de votre propos au sujet du blog. Ça vous étonne pas que des femmes qui ont finalement 10 ans de plus que vous soient déjà... Alors, c'est pas un jugement que j'attends, hein, bien entendu, mais c'est un petit peu un rapport, je dirais, d'observation. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous trouvez ça un petit peu décalé? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors je reformule pour être bien sûr d'avoir compris. Qu'est-ce que ça m'évoque, le fait, qu'est-ce que ça suscite comme réaction, le fait que des femmes qui ne sont pas vraiment vieilles prennent la parole sur ces sujets?
C'est-à-dire qu'on se parle de personnes qui ont 40 ans, puis on parle de personnes qui ont 80, 90 ans.
Ça n'a rien à voir.
On est bien d'accord que là, il y a quand même un gap. Donc...
Oui. Ça n'a rien à voir. Vous avez tout à fait raison. En fait, il y a de tout. Par exemple, les femmes que j'ai citées qui ont la trentaine comme moi, elles s'intéressent au sujet. Pourquoi ? J'imagine que chacune a ses raisons. Elles ont été soit confrontées à cette problématique dans leur domaine, dans le domaine professionnel, soit dans le domaine privé de leur vie perso. Et donc, elles s'interrogent et elles cherchent à dérouler les fils. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Et alors là, on tombe dans le même cas de figure que le mien. Voilà, le sujet les intéresse, ça les porte, elles ont envie d'en parler. Du coup, ça ne m'étonne absolument pas, puisque je m'y retrouve. Pour ce qui est des autres, je pense notamment par exemple à Valérie. Valérie, c'est parce que je lui en ai parlé, et parce qu'elle me connaît, et parce qu'on a un lien de confiance. Si effectivement il n'y avait pas ce lien de confiance, si on ne se connaissait pas... Peut-être qu'elle m'aurait dit « Non mais t'es bien gentille, cocotte, avec tes coups de vieille, moi je me sens pas du tout concernée en fait. » Et elle aurait raison. Donc voilà. Mais le parti pris du blog, c'est justement de s'interroger sur ce vieillissement. Et ce vieillissement, n'a pas d'âge, quoi. C'est-à-dire qu'il dure à peu près tout au long de la vie. Donc c'est ça aussi qu'il s'agit de montrer, ces différentes étapes, ces différents moments de la vie en fait.
Est-ce que vous avez entendu parfois des propos valorisants de l'âge? Parce que ce que j'entends depuis le début dans ce que vous me dites, c'est que bon, les femmes craignent de vieillir. Ce que vous avez entendu dans les différentes discussions que vous avez pu avoir avec des gens de tous âges, que l'âge pouvait être quelque chose de positif.
Oui, absolument. Alors, il y a plein de choses. On a aussi créé avec deux ex-collègues à moi qui ont plus ou moins le même âge que moi un podcast qui s'appelle « À fleur d'âge » où on a interviewé 10 ou 11 femmes de 17 à 101 ans sur leur rapport à l'âge. Donc il y a aussi cet apport-là. Et effectivement, alors il y a plein de choses positives. Et donc vous avez raison d'en parler parce que bien souvent on ne met l'accent que sur le négatif, alors, ou ce qu'on perçoit comme négatif, je modère beaucoup. Alors que dans le positif, il y a plein de choses. Il y a le fait qui ressort beaucoup, hein, le fait de mieux s'assumer, être mieux dans sa vie, dans son corps. Le fait de se moquer un petit peu du regard des autres, l'expérience aussi qui peut venir avec les années, donc le fait d'avoir des points de repère dans le passé, dans nos expériences, qui nous permettent de mieux gérer le quotidien, l'incertitude, etc. Donc oui, il y a énormément de choses positives. Il y a aussi simplement le fait d'être en vie, de pouvoir profiter de la vie, sortir, passer du temps avec ses amis, sa famille. Donc il y a énormément de choses très positives, attribuables au fait de vieillir, mais aussi attribuable simplement au fait d'être en vie en dehors de la question de l'âge.
Mais s'il n'y avait pas une stigmatisation qui vient souvent du monde du travail, il faut quand même le dire, est-ce que vous pensez que le vieillissement serait vécu tel que vous le restituez là, c'est-à-dire avec effectivement un sentiment de dépréciation globalement, c'est ce qu'on peut retenir?
Alors, d'après ce que j'ai pu lire, une des manières d'expliquer l'âgisme, c'est la peur de la mort. Hein. Donc a priori, il n'y a pas que le monde du travail qui contribue à cette dépréciation, mais il y a aussi simplement un rapport à la mort et à cette réalité, on est mortel. Donc a priori, c'est pas que le travail qui vient nous donner cette vision négative, mais c'est aussi d'autres choses.
Mais ça, finalement, on peut le ressentir à tous âges. Je veux dire, le fait qu'on n'est pas éternel, je veux dire, si à 15 ans, on vit par exemple le départ de ses parents, accidentellement, notamment, on est un petit peu sombre là dans nos propos, là, on prend conscience quand même d'un certain nombre de choses et on peut déjà être dans ce processus. Donc, je veux dire, ce processus-là appartient à tous les âges de la vie, finalement.
Absolument, vous avez raison, et c'est ça qu'il faut restituer, c'est ça qu'il faut essayer de transmettre et de communiquer. En tout cas, une des théories qui est posée pour expliquer l'âgisme, c'est ça. C'est notamment le fait que les vieux, et je le dis évidemment avec un esprit de provocation, mais sans aucun manque de respect, les vieux nous renvoient à notre vieillissement, à notre finitude. Mmh. Et donc, ça pourrait être un facteur d'explication, mais il y en a sans doute d'autres. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans le monde du travail, on voit qu'il y a aussi d'autres dynamiques à l'œuvre, effectivement.
Que pense votre entourage de la démarche que vous venez d'entreprendre finalement? Parce que c'est assez récent, on va dire qu'il y a 2 ans hein, globalement. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on vous dit? On ne vous dit pas, tiens, mais c'est bizarre, tu t'es cherché une niche, tu t'es cherché un truc. Expliquez-moi.
Oui, alors dans mon entourage, alors mon compagnon est entrepreneur aussi, donc on est plutôt en phase et on se rejoint aussi puisque lui, il vient du domaine de l'interculturel. Donc on a énormément de conversations autour de ces sujets, autour de la diversité au sens large. Donc de ce côté-là, je suis bien entourée. Alors après, effectivement, oui, ma mère, par exemple, a du mal à comprendre pourquoi je m'intéresse à ces sujets. Oui, effectivement, ça crée un peu d'incompréhension. Et une des raisons qui nous a poussé aussi avec Clara à faire cette petite enquête aussi auprès de nos proches, c'était aussi pour essayer de comprendre le regard de personnes avec lesquelles on est en contact très régulièrement et qui ne s'intéressent pas au sujet. Et donc, on essayait de comprendre aussi cette diversité de regards portée sur un sujet qui nous passionne. Mais effectivement, ça peut créer un peu d'incompréhension ou un peu de « tiens, mais pourquoi ?» Et puis, on le respecte aussi. Et puis, si on a à un moment donné, si la personne a envie de creuser, on est tout à fait ouverte pour creuser. Mais...
Alors, s'intéresser à ce sujet de l'avancée en âge, je vais le dire comme ça, parce que là, pour le coup, on est tranquille. Hein, on ne heurte personne, on avance tous les jours, donc tout va bien. Est-ce que c'est une audace ?
On en revient à l'audace.
Oui, on est là pour ça, hein, chère Caterina.
C'est vrai.
Vous faites partie maintenant des audacieuses, donc il faut assumer et il faut y aller. Alors...
C'est ça. Alors, est-ce que c'est une audace? Oui, un petit peu, quand même, je pense. C'est une audace parce que, comme vous le disiez, ça crée un peu d'incompréhension. Donc, il y a effectivement cette question de se confronter au regard parfois de l'autre. Et c'est jamais facile. Mais oui, je pense qu'il y a un petit côté, un peu décalé.
Un peu décalé, d'accord. C'est votre définition de l'audace?
Non, alors je pense, pour en revenir à l'audace, pour moi, je pense que l'audace, ce serait, en tout cas une manière de la définir, ce serait de dire que c'est aller là où on ne vous attend pas. Mmh. Et peut-être aussi aller même là où on ne s'attend pas soi-même. Et donc, je pense que si je prends cette définition, ça correspond un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi aller sur la vieillesse quand on est encore jeune et quand on n'est a priori pas concerné? A priori, ça correspond, quoi.
Mais écoutez, Caterina, merci infiniment pour ce beau témoignage.
Merci.
Sur votre âge, sur celui des autres. On peut le lire aussi comme ça. Je vous souhaite une belle route. Sur les traces de l'âgisme. Et puis j'espère que d'ici peu de temps, on aura l'occasion de se recroiser. Merci beaucoup à vous, Caterina.
Avec grand plaisir, merci.
Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.